RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
La soupe angevine. On était en train de parler de la soupe angevine.
Voilà, ça va loin.
Bah oui, la soupe angevine, c'est à base de crémant d'Anjou. Un petit, c'est un cocktail quoi. Ça se boit comme de l'eau, enfin avec modération, mais
avec les mecs qui sont un peu entraînés quand même.
Non, mais parce que
un mec qui est pas initié au deuxième verre d'eau, t'es pas bien quand même.
Il y a la plus belle tapisserie du monde, la plus longue tapisserie du monde. Le jugement dernier, qui est un truc absolument phénoménal.
Je suis moins sensible à ça que.
Je pense que c'est bon, on l'a bien fait sur Angèle.
Ouais, on peut y aller. Allez.
Estelle Denis donc sera demain avec vous. Elle vous en parlera tout à l'heure. On y va, Louis. Là, on s'en fout, pas.
Allez, du Maine-et-Loire à l'Ille-et-Vilaine, on va à Rennes. La municipalité vient d'adopter une charte pour la condition animale. Elle interdit la pêche dans les étangs de la ville. On s'en fout, pas, Willy.
Ah, évidemment qu'on s'en fout pas.
Sarah.
On s'en fout.
Et Étienne.
Non, on s'en fout pas.
Allez, oui, dis-nous. Pourquoi tu t'en fous pas?
On est encore une fois parti dans cette dérive animaliste exacerbée. T'as un peu de gens, d'ailleurs. Les étangs de la ville sont plutôt des gens, je dirais, modestes, qui vont pêcher un petit peu le dimanche, un barbecue, les copains, et qui attrapent quelques poissons. Bon, enfin. Ou en quoi ça dérange? Faut-il mettre une charte animale pour protéger les poissons des étangs? Ce sont des endroits qui sont d'ailleurs nettoyés par ces mêmes gens. J'ai regardé, il y a des assos, ils s'entretiennent, c'est leur petit truc, c'est public. Ils attrapent quelques poissons dans la limite du raisonnable. Où était le problème? Évidemment, la chasse, la pêche, le droit de monter sur le dos d'un cheval et des tas de choses comme ça. Demain, les animaux, enfin, c'est une catastrophe, c'est une vraie dérive. Cette dérive écologique aujourd'hui à la tête de la ville de Rennes est vraiment inquiétante pour le reste. Et puis demain, allons jusqu'au bout. Est-ce qu'on aura encore le droit d'avoir un animal de compagnie?
Oui, parce que c'est un élu municipal délégué à la condition animale
animale.
Aujourd'hui, le problème, c'est quand on va pêcher les poissons, reste sur les rives, les appâts. Et donc, ça crée des parasites pour la biodiversité.
Les appâts.
Oui,
pour la biodiversité. J'ai pas compris, là. Mais...
Non, il va plus loin. Il dit les poissons sont capables de souffrir.
Ils sont mutilés.
Et on est soucieux de leur personnalité.
Oui, ils sont mutilés.
Ils sont moins conclus.
Enfin, la personnalité du poisson.
Étienne ?
Ouais, c'est un double sujet. Il y a le sujet. Moi, je suis assez d'accord pour interdire la pêche. Je vois pas l'intérêt. Mais bah, ceci dit, plus profondément, il y a cette question vraiment sociétale qui se pose de la place de l'animal et de l'animal domestique, sur lesquels on pourra pas rester encore longtemps sans mener une véritable réflexion au niveau du pouvoir. C'est-à-dire vraiment, quelle est la place de l'animal et est-ce qu'on accepte aujourd'hui une véritable révolution philosophique et religieuse, parce que dans la Bible, les animaux, c'est pas leur paradis. Donc, on accepte une révolution et on considère que l'animal a changé de statut. Il faut simplement qu'on en soit tous conscients et qu'on le dise. Voilà, c'est une évolution.
Surtout,
c'est une décivilisation.
On parlait de démocratie
oui,
tout à l'heure.
Oui, c'est une décivilisation.
Ce délégué fait partie de la municipalité de Rennes qui a été réélu. Mais enfin, dans ce cas-là, organisons un référendum.
Consultation. Et puis
consultation.
On n'écoute pas le résultat.
En général, quand le résultat ne va pas dans le sens de la personne.
On continue.
On précise juste que la mairie de Rennes a été sollicitée par les chasseurs-pêcheurs, mais qu'elle ne leur a pas répondu.
Non. Non, je comprends pas pourquoi.
On continue.
Allez, on enchaîne. Michael Corleone, Al Pacino, va devenir papa pour la quatrième fois à 83 ans.
Combien ?
83 ans. Avec sa compagne de 29 ans, Nour Alfala. On s'en fout pas, Étienne.
Non, on s'en fout pas parce que ça.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Et Willy ?
On s'en fout.
Sarah, vas-y, dis-nous pourquoi tu t'en fous pas.
On s'en fout pas. Alors bon, c'est vrai que 60 ans d'écart, c'est peut-être un peu beaucoup.
Attention, elle va nous expliquer quelque chose, je le sens là, vas-y.
Mais il les fait pas, déjà pour commencer.
Ah, il les.
Les mauvaises langues vont dire qu'elle est là pour de mauvaises raisons. Moi, je pense qu'on veut aimer les hommes plus âgés. Je suis bien placée pour en parler. Néanmoins, 60 ans, ça me paraît peut-être un peu trop. Voilà.
60 ans d'écart ?
Oui.
Mais est-ce que c'est égoïste de faire un enfant à 83 ans ?
Non, les gens font ce qu'ils veulent.
Ah non, c'est un gamin, ça fait une vie qui va naître. Le problème.
Moi, je vois pas le problème.
Si le père est plus là,
le père sera plus là.
Non, Olivier, il y a des pères qui font un enfant, je sais pas, à 30 ans, à 40 ans, qui ne s'occupent absolument pas de leurs enfants. Qui ne payent même pas la pension alimentaire, qui ne font rien.
C'est vrai.
Donc, je ne vois pas pourquoi un père, bon, c'est vrai qu'il est un peu vieux, enfin, il est grave vieux, mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi un père de 90 ans serait un moins bon père qu'un père de 40.
Tu penses éducateur, ça va être moins plus court quand même, ça c'est sûr.
Bah, ça se discute.
Je pense qu'à cet âge-là, quand on fait un enfant, c'est qu'on le veut, hein. C'est pas un accident de parcours. Donc, un enfant à 83 ans, à mon avis, c'est parce qu'on imagine, on se projette dans l'avenir et c'est une forme de refus de la mort.
C'est une forme de jeunisme.
C'est une forme de refus
de refus de sa propre disparition, mmh. en se disant qu'une responsabilité nouvelle nous échoit et que ça nous conduit à continuer à de vivre. Bon. Je pense qu'il a, ouais. il y a là un véritable problème d'ordre psychanalytique. Quoi.
Bah, moi, je pense pas. Pour conclure juste là-dessus, ça peut être aussi le désir de sa compagne.
Oui, c'est ça.
Qui, elle, dit, bah, moi, j'ai envie d'avoir un enfant.
Et qu'elle évidemment, le voisin.
Mais non, arrête.
Oh, il tient d'affreux.
N'importe quoi, arrête.
Et voilà. Almacino qui habite juste en dessous.
Elle a envie d'avoir un enfant.
Ans,
et peut-être que par amour pour elle, il lui dit, on va faire cet mais enfant, même si je sais que je le connaîtrai pas pendant 30 ans.
Pour préciser une chose, cette femme qui s'appelle Nour Alfala, aime bien les personnes beaucoup plus âgées qu'elle, puisqu'avant elle était avec Mick Jagger.
Ah oui.
Et oui. Et ça s'est arrêté.
Il avait quel âge?
À l'époque, il avait 74 ans.
Il était trop jeune.
Voilà. Ouais. Et voilà ce qu'elle disait. Nos âges n'avaient pas d'importance. Pour moi, le cœur ne sait pas ce qu'il voit. Il ne sait ce qu'il ressent.
Il ne trouvait pas assez mature.
Oui, elle a
un manque de maturité.
Un gamin.
Elle a gardé les couches.
Beaucoup trop joueur. Allez, on termine.
Les Français n'écrivent plus. 78% des personnes interrogées par une étude disent écrire moins à la main qu'il y a 10 ans. On s'en fout pas, Étienne.
Bah, on s'en fout pas, ça.
Willy.
On s'en fout pas.
Allez. Et Sarah.
On s'en fout pas.
Étienne, dis-nous pourquoi t'en fous pas.
Parce que c'est une vraie évolution de la société. Je trouve ça absolument passionnant. On a avancé dans la société. On avait déjà avancé. Il y a eu un moment où personne n'écrivait, que les prêtres et ceux qui possédaient le savoir. Et puis à un moment, il y a eu une démocratisation de la lecture et de l'écriture mécanique. Et aujourd'hui, on arrive à cette forme d'écriture qui est l'écriture sur écran, qui ne change rien fondamentalement au fait qu'on s'exprime par l'écriture, mais qui change tout sur le fait de l'objet qui nous sert à écrire. C'est une révolution du mode d'écriture. C'est passionnant. Est-ce que ça va changer notre façon de penser? On peut, par exemple, en Chine, c'est très important, les Chinois ont changé leur mode d'écriture, ont changé l'idéographie, qui était quand même essentielle dans leur mode de culture, pour un système alphabétique de façon à pouvoir utiliser les ordinateurs. On voit que dans ce pays, il y a eu une acceptation générale de la population d'absolument changer tout.
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix.
Ils n'avaient pas le choix.
L'acceptation générale en Chine, Étienne, excuse-moi, mais elle est rare quand même.
En tout cas, tous les enfants s'y sont mis. Aujourd'hui, les Chinois, pour pouvoir apprendre à parler anglais, ont accepté l'écriture alphabétique. Donc c'est un changement de façon de penser.
Alors, pour moi, il y a quand même un problème. C'est qu'on sait. Enfin, je pense que ça implique.
Utilisez encore beaucoup ton stylo.
Non, quasiment plus. Mais quand j'ai un stylo à utiliser,
pas votre stylo.
Quasiment pas. Et j'ai plus l'habitude d'écrire. J'écris lentement quand j'écris avec un stylo. Et je trouve que ça facilite les fautes d'orthographe quand on écrit que à l'ordinateur, parce qu'on est tellement habitué au correcteur automatique qu'il y a de plus en plus de gens qui ne savent plus écrire à la main quand on leur demande.
Grave.
Comment?
Est-ce si grave?
Bah de faire des fautes, oui, c'est un peu grave.
Est-ce si grave?
Bah oui, faire des fautes, c'est embêtant.
Puisque t'as le correcteur automatique.
Bah non.
Donc tu n'apprends plus alors.
Non, mais c'est toute la question. Est-ce que d'avoir une machine à calculer et de ne plus faire ses fractions.
Bah, c'est bien d'apprendre le calcul mental.
C'est à la fois grave et en même temps extraordinairement rationnel.
Non, parce qu'il faut comprendre pourquoi on doit écrire comme ça.
Comment les règles de grammaire fonctionnent un minimum. Je ne peux pas te dire je ne sais pas écrire, il y a le correcteur. T'auras pas toujours le correcteur.